Daïka, 90.2 FM.
Venez, venez, entrez. Le Judaïka Culture Club a ouvert ses portes, comme tous les lundis. Et notre but n'a pas changé, c'est de vous faire sortir de chez vous pour assister à des spectacles vivants. Et encore une fois aujourd'hui, je vais vous prouver qu'à Bruxelles, il y a tout ce qu'il faut pour tous les goûts. Pas de musique aujourd'hui, mais que du texte, du beau texte et des beaux jeux. Je suis vraiment, encore une fois, très fière de mes invités. Alors, on a un tir groupé de trois auteurs qui se sont principalement basés sur leur histoire personnelle pour écrire... on doit dire des cartons pleins. Hein. Emmanuel de Candido, bonsoir. Voilà.
Bonsoir.
Qui joue donc au théâtre de poche Fils de Bâtard. Merci d'être là parce que c'est complet de toute façon.
Il reste quelques places les 24 et 25 sur les dates supplémentaires.
Voilà, c'est ça, on a rajouté des dates.
Annonce exclusive.
Outman Noumen, bon, ça n'a pas encore commencé, alors peut-être que c'est pas encore complet. Donc, pour partir
oui,
en fumée,
allez-y.
Voilà, il y a encore des places.
Du 12 mars au 23 mars.
Voilà, ça commence très très bientôt. On a eu l'occasion de voir la version courte l'année dernière.
Au théâtre des Tanneurs.
Et on a adoré, on a un peu pleuré. On a un peu pleuré, comme ça. Et Véronica Mabardi, donc un de ses textes, c'est Loin de Linden. Mais qui vient de se terminer, enfin, c'est jamais tout à fait fini, puisque c'est un texte qui tourne depuis combien de temps ? 4 ans ? Ah oui, carrément.
Mais on voilà. S'arrête un peu.
Voilà, mais il y a une des séries qui vient se terminer maintenant, voilà, que j'ai...
On continue, c'est celle à Namur, Martin.
Et ça vaut, franchement, ça vaut le déplacement, mais là, on va venir parler donc de lecture de tous tes textes, ou c'est peut-être pas tous les textes.
C'est pas tous.
C'est pas tous, mais... Voilà, c'est déjà pas mal quand quelqu'un fait une rétrospective de ses œuvres, c'est que il y a une œuvre, comme on dit, hein, ça commence.
Voilà. Rétrospective, c'est un drôle de mot, mais
c'est un pied dans la tombe.
C'est en cours, c'est un travail en cours et c'est une fenêtre, un arrêt sur image.
En tout cas, on est très curieux de voir tout ce, et d'entendre tous ceux qu'on n'a pas encore entendus. Et alors, on a deux personnes qui font finalement vivre les autres, puisque vous faites venir des spectacles, donc il faut bien ça hein, pour que vous puissiez vous produire. Donc, Fabienne Covart. Voilà, c'est ça, j'ai pas trop écorché le nom.
Pour le théâtre de la Clarencière, pour le théâtre... parce qu'il faut des gens derrière pour que ceux devant puissent s'exprimer.
Exactement, mais merci. Alors, est-ce que c'est un théâtre, un café-théâtre ?
J'insiste beaucoup sur le mot de théâtre littéraire. Je ne veux pas être associée au café-théâtre, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Le lieu est consacré au verbe, vraiment.
Voilà.
Et je n'ai pas envie que les gens regardent les spectacles en mangeant et en buvant. Je veux qu'ils aient toute leur attention centrée sur le spectacle.
D'accord, on est d'accord. Luc Reichmann, qui s'occupe de la maison de la culture juive et qui nous fait venir. On est très, très curieux.
Mais voilà, je vous fais voyager avec toutes sortes de choses, avec des conférences, des visites guidées. Avec de la musique, avec beaucoup de musique, entre autres la fête des musiques juives. Et je suis venu aujourd'hui pour le spectacle, un spectacle de contes, La ville des petites gens de Shalom Aleichem.
Voilà, et qui va en plus se jouer dans des synagogues, ce qui est quand même très 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 rare.
Deux synagogues.
Deux synagogues, c'est l'occasion de les visiter.
Aussi, il y en a une qui vient d'être classée d'ailleurs.
C'est ça, celle d'Anderlecht, mais on en parlera tout à l'heure. Et on va commencer avec Emmanuel de Candido et le fils de bâtard. Alors, bon, qui est le fils, qui est le bâtard ? Toi, tu es ?
Moi, je suis bâtard. Moi, je suis né administrativement de père inconnu. En Belgique, on dit un bâtard. À La Réunion, on dit un royal bourbon. Au Congo, on dit une balle perdue. Et voilà. Et donc mon fils, aujourd'hui, il a 4 ans et demi, mais j'en parle pendant le spectacle. Il avait 3 ans quand je raconte cette histoire. Et donc, en quelque sorte, ce spectacle lui est adressé.
Et c'est un peu particulier parce que c'est une sorte d'enquête que tu as fait sur ta vie, sur ton histoire, en fait, sur l'histoire de ton père. Et puis de ta mère, celle-là, tu l'avais sous les yeux quelque part. Et tu parles des deux.
Oui, c'est ça. En fait, mon point de départ, il est déjà assez ancien. C'est en 2016. C'était un moment très particulier dans ma vie et j'ai écrit dans un de mes carnets, j'ai écrit cette phrase, j'irai boire un café avec mon père parmi les morts et j'en reviendrai vivant. Mon père était déjà mort depuis longtemps. Et puis j'ai pris cette phrase un peu au pied de la lettre. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voyager, essayer dans les territoires où il a habité et où il a travaillé. Il a travaillé au Congo, en Antarctique, en Libye, en Belgique.
C'est quand même très particulier. Voilà.
Et puis au fur et à mesure, il y a eu un grand tournant dans ce projet. Ma maman était malade et décédée il y a un an et demi. Et ça m'a frappé comme une évidence. Je me suis dit, mais en fait, je vais faire un spectacle qui cause pendant une heure et demie d'un père absent que j'ai à peine connu. Et qui parlera de ma mère qui a été 45 ans infirmière et qui s'est occupée de moi seule. Et ça a été un vrai tournant dans la construction du spectacle.
C'est ça, dans le spectacle aussi, oui. Mmh. D'ailleurs, c'est un spectacle relativement long. Il fait combien de temps ?
Alors moi, je pensais qu'il faisait 1h30 et qu'on arriverait à en faire 1h25. Et on me dit au chrono, c'était à 1h40.
C'est ça.
Et les gens disent, ah ben c'est 2 heures qu'on a passé ensemble, c'était formidable. Donc voilà, tout est une question de perception.
Et alors dit comme ça, ça pourrait être, je ne sais pas, il ne faut pas croire que c'est triste, hein. C'est d'abord ton père, tu l'as connu. Il était officiellement de père inconnu, mais en fait très connu. En fait, on l'a jamais caché, ni à toi, ni à ta mère, ni aux autres enfants de ton père, c'est ça ?
Non, c'est une situation familiale un peu, disons, un peu originale. Donc, il avait 7 enfants, il était marié. Donc, ma mère était sa maîtresse. Je suis né, c'était pas attendu. Et finalement, tout ce beau monde, tous ces adultes, dont son épouse, ont dit, bon, quoi qu'il en soit, c'est pas de la faute du quête. Donc, en faisant en sorte d'en prendre soin, et ce qui fait que je le voyais de temps à autre. Et c'est ça aussi qui fait que cette énergie-là et cette bienveillance-là fait que j'ai pu, avec une équipe de 10 personnes, construire un spectacle qui passe du rire aux larmes et qui, en fait, parle assez peu de moi, mais plutôt du trajet de mes parents, qui s'adresse à mon fils et qui... C'est ce qu'on dit du spectacle, moi, j'aurais pas réussi à dire, mais en racontant une histoire intime qui parle à chacun, chacune de sa propre histoire, ou qui traverse chacun et chacune, ouais.
Alors, j'ai eu l'occasion de voir ce spectacle, j'ai eu la chance, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de place, donc dépêchez-vous. D'ailleurs, je ne sais pas, il y a déjà une tournée prévue, il y a une suite prévue après
C'est en cours, on ne va pas se mentir, on a vraiment la chance qu'au niveau du public, ce soit fort plein, la presse suit. Donc voilà, on est accompagné par la charge du rhinocéros, c'est une boîte de diffusion. On parle de ceux qui sont les métiers de l'ombre, et on a beaucoup de chance de travailler avec elles. Et donc, c'est en cours. Les téléphones sonnent, les boîtes.
C'est un spectacle qui va continuer. Alors, je ne sais pas s'il va continuer aussi longtemps que... Donc, pas le spectacle précédent, mais celui d'encore avant.
C'était donc Jessica a-t-elle quitté Brandon.
Voilà.
En même temps, à côté de
Jessica qui parle
de 2013. Alors, nous, on avait créé en 2018. Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon. Il ne faut pas se mentir, il y a eu le Covid entre les deux. Hein, voilà, ça aide dans la temporalité. Mais on le joue encore aujourd'hui. On est encore en tournée avec ce spectacle.
Ah oui, c'est ça. C'était un spectacle incroyable.
Enfin, merci.
Ce qui est dur, c'est qu'on ne peut pas trop raconter.
À chaque fois, on avance masqué, mais
c'est ça.
Il y a des points communs entre les deux spectacles. Ce qu'on peut quand même dire, c'est que dans les deux cas, donc Fils de bâtard, ça démarre comme un peu une forme, un petit peu conférence ou stand-up.
Oui.
Et puis en fait, c'est comment est-ce que j'ai déjà parlé comme ça de fracture, il y a un tournant comme ça dans le spectacle, mais comment est-ce qu'on passe d'une théâtralité à l'autre, donc par du slam, de la manipulation, de marionnettes géantes, de la musique et comment voilà.
Alors c'est très varié. Mais toutes les parties sont tellement bien écrites. Non, franchement, le texte est magnifique. Je ne sais pas s'il y a un texte de la pièce, en fait. Il y a un texte de la pièce ?
Pas encore
en vente.
Publié, en tout cas. Mais on fait partie de... Je dis « on » parce que donc, cette équipe-là, et puis je me tourne vers votre même woman, mais ce plaisir, parce que je le connais bien comme acteur, ce plaisir aussi de mélanger les styles, les langages, et aussi de ne pas se fermer, de ne pas être catégorique sur c'est que le texte qui compte, ou c'est que le mouvement, ou c'est... que le rire ou la tragédie, mais essayer de mélanger ça à la mesure des vies qu'on traverse, quoi.
Oui, oui. En tout cas, ça commence... Ce que j'ai aussi apprécié, c'est que... Et ce qui est très, très rare, c'est... Bon, vous êtes à 3 sur scène, on va dire. Enfin, il y en a 2 qui ne parlent pas. Il y a une musicienne et puis un responsable de la lumière, c'est ça, que tu présentes dès le début, ce qui est très, très rare. D'habitude, comment on présente la technique, on fait comme ça, on lève le bras. Mmh. Et alors, les gens savent que derrière, il y a quelqu'un qui se cache et on applaudit, mais on ne sait pas qui, par politesse, pour faire plaisir. Et là, c'est le contraire. Donc, d'abord, ils sont sur la scène. Et enfin, la musicienne, bon, c'est normal, mais on n'appelle pas ça un éclairagiste. Il fait un peu de tout, quand même.
Donc, c'est Orphis Labarbe à la musique et Clément Papin, qui est à la fois directeur technique de la compagnie. Ça veut dire qu'il suit le projet depuis 6 ans. Il est créateur lumière, régisseur, et il s'occupe des effets aussi sur le plateau. Et évidemment, oui, on a envie de les célébrer. Et puis, il y a aussi... Ce spectacle est rempli de, moi, j'appelle ça des petits braquages, qui sont des braquages tout à fait amicaux. Mais le fait aussi de les faire applaudir au début, c'est aussi histoire d'être ensemble avec le public et d'un peu monter le...
En tout cas, moi, je n'avais jamais vu ça. Hein. Est-ce que vous avez déjà fait ça ? Présenter vos techniciens avant de commencer le spectacle ?
Non, ça arrive en général, en effet, aux premières ou aux dernières. C'est assez rare. Ben, c'est parce que souvent, ils sont aussi de l'autre côté, oui. En fait. Ils sont
mais
très
on dit
loin.
Même pas leur
mais là,
nom,
quand on met le technicien sur le plateau, oui. C'est intéressant. On appelle ça les métiers de l'ombre, mais c'est pas cool de dire ça, parce qu'il devrait être autant dans la lumière. Mais voilà, il se trouve que... il mérite en effet le respect que tu leur donnes.
Et la source. Les applaudissements, l'amour, la chaleur.
Donc et quoi, c'est des applaudissements que tu donnes dès le début du spectacle,
oui.
En fait.
Donc je démarre, oui. Et vraiment, il y a quelques notes, et je dis à la régie, son sous vos applaudissements, Orphis de la Barbe. Mais après, quand je parle que ça commence un peu comme du stand-up, c'est qu'on pique aussi cette ambiance-là. On le voit en match d'impro, on le voit, il y a quand même
mais donc
formes.
Tu joues avec des codes aussi,
oui,
hein,
c'est ça,
tu balades le public.
C'est beau,
quoi.
Ça, donc, on en profite pour faire applaudir.
Oui, c'est ça, parce que...
on n'est pas sûr que...
Au cas où, oui, c'est ça, c'est ça.
Parce que je ne sais pas si j'ai le droit de dire la première phrase du spectacle.
Oui, bien sûr.
Donc, il commence par dire, est-ce qu'on peut recommencer ? Évidemment, il y a plein de gens qui disent, oui, ça va. On peut. Et en fait, ça fait partie du spectacle et de, est-ce qu'on peut recommencer une partie de notre vie, c'est ça ?
C'est la question fondamentale qui revient régulièrement. C'est, si tu pouvais choisir un instant de ton existence et recommencer cet instant pour transformer ta vie, est-ce que tu sais quel instant tu choisirais ?
Voilà. Et après,
c'est
on est déconcentré, oui. On pense qu'à ça, et puis non.
On n'écoute plus alors.
Non, mais on y arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui vous déstabilise ? C'est un spectacle ? Est-ce que, Fabienne, est-ce que c'est un spectacle qui te donnerait envie de faire tourner ?
Moi, j'ai vu il y a 2-3 jours justement l'annonce, et ça m'a donné envie d'aller le voir, mais malheureusement, je suis beaucoup coincée à la Clarencière, mais ça m'a donné envie tout de suite. En plus, je connais Emmanuel, je connais ses prestations, je l'apprécie beaucoup comme acteur. Donc oui, ça me donne très envie. Et le sujet.
C'est vraiment une performance d'acteur parce que ça passe par plein de styles différents, par justement du stand-up, par des choses plus émouvantes, par une sorte de slam, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme style ? Il y a un petit peu de tout là.
Il y a du théâtre physique, il y a du, bon, j'appelle ça du mime, c'est du mime sauvage, oui. C'est du mime qui ne s'arrête pas dans les détails. Il y a de la manipulation d'objets, il y a du chant. En fait, il y a tout ce que j'avais envie de mettre sur le plateau, ou parfois, parce qu'on en parle aussi dans le spectacle, ça arrive que des directeurs, des directrices de théâtre disent « Ah non, ça va pas te lancer, commence pas à faire du mime chez moi, il manquerait plus que ça. » Et donc on joue de tout ça aussi, donc c'est une manière de se faire plaisir, mais pas seulement pour se faire plaisir, c'est pour célébrer quelque chose de... Puisque je parle de ma mère aimait beaucoup le théâtre, vraiment, et toutes les formes de théâtre. Elle allait voir du théâtre amateur, professionnel, de tous les styles. Et c'est aussi une manière de célébrer cette gourmandise des différents performeurs, performeuses et des théâtres.
Et vos différentes possibilités aussi, hein, pour
comme
pouvoir
ça, je déroule
le faire.
Mon CV, hein. J'espère qu'après...
Voilà, c'est ça, oui, c'est ça, c'est voilà, bien comme CV.
Je suis trop rarement engagé, donc je déroule mon CV. Voilà.
Et si je dis que le père, il m'a fait penser un peu à l'aviateur, à
Saint-Exupéry.
C'est juste ou c'est une sorte d'aventurier qui a changé de métier, mais pas tous les mois, qui restait quand même des dizaines d'années dans un pays, dans un métier, puis qui a tout à fait viré de bord.
Oui, à la fin de sa vie, il est devenu, donc il a commencé militaire, il a eu plein de métiers, mais il a fini psychothérapeute, bioénergéticien. Et donc, il y a de ça, il avait été marqué, Saint-Exupéry bien sûr, ou un ouvrage comme Jonathan Livingstone, Le Goéland. Donc comment est-ce qu'on passe d'une vie d'aviateur, de militaire, à un rapport à la littérature et
Et avec tout ça, avoir le temps de faire 7 enfants, plus au moins un en tout cas.
Oui, moi je suis le 8e, c'est ça.
C'est ça, oui. Au moins, on ne sait pas.
Ah oui, exactement.
On ne sait pas.
Donc voilà, j'ai fait cette annonce à la si vous avez reconnu le paternel.
Parce que ce qui n'est pas vraiment dit dans la pièce, est-ce que l'épouse a suivi ? Est-ce que l'épouse officielle a habité avec lui dans tous ces pays ?
Oui.
Ah oui, d'accord, voilà.
Enfin, sauf en Antarctique.
Ah voilà.
En Antarctique, on n'habite pas. En Antarctique,
en famille.
On y va, on se planque, on va un peu dehors et puis on rentre en Belgique.
Et donc, on va écouter une musique. Qu'est-ce qu'on écoute ?
Alors, je vous ai. C'est un petit temps que je vous ai envoyé, donc je l'ai envoyé avec cœur, mais je me souviens
soit,
pas.
Soit un homme.
Bon. Ah, c'est Eddie de Préto.
Voilà.
Tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid, je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid, loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent, sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon, et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique.
Virilité abusive. Virilité abusive.
Tu seras viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid, tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tout sens, des fils raptaires et dopés de chair de nerfs protéines. Et tu seras viril, mon kid, tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture.
Ah là 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 là, quelle frustration, je sais, mais j'aime tellement plus parler avec vous que d'écouter, voilà, les musiques qu'on peut écouter chez soi après, ça donne plein d'idées. Et on va passer à Othman, alors Othman Moumen, rebonsoir, donc parti en fumée.
Oui.
Et là, encore une fois, donc on va parler de du père.
Encore une fois, du père. Ouais. On dirait vous l'avez fait exprès, là, aujourd'hui.
Je ne sais pas. Non, c'est l'air du temps et, c'est... et ça marche. Hein.
Bah oui, oui, oui. Donc oui, la figure du père. Enfin, moi, j'ai voulu interroger... C'est parti de la construction d'une marionnette, en fait. J'ai eu accès à un stage avec Natacha Belova.
Oui, qu'on adore.
Une grande marionnettiste... Et avec qui j'ai pu façonner une marionnette à l'image de mon père. Et puis, il y a une particularité, c'est que mon papa, c'est un gros fumeur depuis 50 ans maintenant, et qui a un cancer des poumons en phase 4 depuis 7 ans, et continue à fumer. Donc, les médecins lui avaient donné 2 ans à vivre, mais bon, voilà, il est toujours là. Et il ne fait rien de ce sursis qu'il a. Et donc, je me suis interrogé sur... Pourquoi il n'en fait rien ? Qu'est-ce qui est... Et au-delà de ça, au-delà de la maladie, il y a une phrase aussi qui a claqué dans ma tête. C'était qui était sortie, qu'un collègue à moi, Hakim Loukman, avait dit une fois sur un précédent projet qui s'appelait Moutouf. Il avait dit que chez les Chinois, le poumon, c'est l'organe de la tristesse. Et donc, j'ai fait un lien tout de suite avec mon père et cette espèce de mélancolie de l'immigré... De la tristesse vis-à-vis de l'exil, de fil en aiguille aussi, la transmission, ou plutôt la non-transmission de ce papa qui ne parle pas beaucoup. Et voilà, j'ai essayé de nouer un dialogue, j'ai été interroger mon père, j'utilise la voix de mon père sur scène aussi, et je manipule mon père sur scène.
Et qu'est-ce que ça fait ? Je me suis toujours demandé, en fait, quand on fait comme ça des pièces, ou même des livres tellement autobiographiques, qui sont pas enfin là c'est pas joyeux, c'est une maladie.
Attention, la forme est joyeuse. Oui. Elle peut être joyeuse. Non, c'est pas joyeux en effet, mais je crois que c'est le propre de chaque artiste, quoi. Oui. À un moment, se tourner sur son vécu et d'avoir une matière qui est proche de lui pour se sentir à un moment peut-être un peu plus légitime de prendre une matière qui lui ressemble et d'en faire, s'il estime que ça peut toucher à l'universel, en faire quelque chose de théâtral qui peut toucher le maximum de gens. Le truc, c'est de ne pas être nombriliste. Moi, c'est ma grande peur à chaque fois. C'est de ne pas parler à mon petit nombril ou à une seule communauté. C'est de dépasser tout ça pour aller essayer de toucher n'importe quel spectateur.
Ben, voilà, la maladie des parents, c'est universel.
Je pense, oui. La non-communication avec les parents, oui. Aussi. Et oui, ben je crois que c'est dans le parcours de chaque artiste de parler à un moment de choses qui sont vraiment très intimes, parce qu'on se sent enfin légitime. Souvent, on porte des textes d'autres. Et voilà. Mais c'est d'autant plus fragile pour nous, parce qu'on est à un endroit d'équilibriste, quoi. On a beaucoup, beaucoup de trouille, beaucoup de peur, malgré les années d'expérience. C'est toujours... C'est très difficile de se livrer, de se foutre à poil, en fait, sur une scène.
Et émotionnellement, c'est ce que je me dis, ça doit être quand même quelque chose de fort.
Ouais, ça, c'est sûr. Surtout que là, ce que je dis dans ce dialogue avec ce papa, mon père est venu voir la forme courte qu'on avait créée l'année passée. J'espère qu'il pourra venir voir la forme longue. Mais c'est vrai que c'est particulier. Il y a toujours un écho particulier, que ce soit pour le public lambda, mais aussi pour la famille qui vient voir... les amis.
Oui, ouais, je me suis toujours demandé si c'était finalement le fait de mettre son histoire, d'abord de réfléchir sur son histoire et puis de la mettre sur, que ce soit sur papier ou en scène. Est-ce que c'est plus thérapeutique ou plus émotionnel sur le moment ?
Alors, j'aurais pas envie de dire thérapeutique, mais pourtant il y a quand même un côté thérapeutique. On va pas se mentir, mais ce n'est pas c'est vraiment l'enjeu pour moi, c'était de avec ce que j'avais trouvé, avec cette matière, cette marionnette, puis j'en ai fait un masque, et puis d'aller interroger mon père, j'ai trouvé un fil, cette phrase qui était dans ma tête, le poumon, l'organe de la tristesse, tout ça, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça, aujourd'hui en tout cas.
Alors on peut parler de la forme, donc il y a cette marionnette, moi j'ai le souvenir d'une main aussi, non ?
Il y avait une main, ouais, ouais.
Elle est toujours là ?
Ouais, ah, ouais.
Oui, oui. Et alors c'est une main terriblement expressive.
Oui, enfin, c'est pas non plus la famille Adam, ça, elle marche pas, mais... oui, il y aura d'autres choses, il y aura des pieds peut-être, même dans la forme longue, et il y a aussi un masque que j'ai fabriqué aussi à l'image de cette marionnette, et plein d'autres surprises.
Oui, je ne sais pas pourquoi, quand il y a des marionnettes, moi, ça m'émeut encore plus que...
Souvent, parce qu'il y a un transfert qui se fait,
oui,
en fait.
Ça marche, hein. Enfin, je sais pas, moi, ça m'émeut énormément.
Je trouve que ça passe
vraiment bien.
J'espère que
alors,
ça
dans ce, effectivement, dans ce projet-là, vous êtes l'auteur et l'acteur. On vous a beaucoup vu au théâtre. Vous êtes un des acteurs qui joue le plus. C'est bien.
J'ai cette chance. Ouais.
C'est vrai, hein. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre dans cette saison? Il y a autre chose de prévu?
Je joue Zorro après. Voilà. Rien à voir au Théâtre du Parc. Mais c'est mon plaisir. Avant ça, je jouais le moche au Théâtre Le Public.
C'est ça.
Et donc, c'est chouette quoi, d'avoir la chance de pouvoir, après 20 ans, continuer à jouer.
Voilà. Oui, mais donc là, c'est un projet particulier que vous portez d'une façon particulière.
Oui, ici, c'est particulier. Ça fait 3 ans que je suis dessus.
C'est ça.
C'est vraiment...
Donc, c'est au théâtre des Tanneurs.
Oui.
À partir du 12 mars au 23 mars.
Exactement.
Voilà, et on espère plus si affinité.
Ah, il y a plus si affinité. Déjà, il y a une tournée prévue l'année prochaine.
Oui. En Belgique, en France, comment ça ?
En Belgique, pour le moment, doucement.
Oui, mais non, je ne sais pas.
Mais j'espère bien la France aussi. Ouais.
Oui, de plus en plus. Enfin, mais c'est vrai que pour ça, il y a un passage à Avignon pour les tournées françaises ou alors des collaborations entre théâtres.
Oui, oui, oui.
Bon, au départ,
c'est des choses compliquées qui, à mon avis, n'intéressent pas le grand public. Mais c'est vrai que le passage à Avignon, oui, c'est...
Bon, alors, je connais quelqu'un qui a un petit café-théâtre avec un nom qui a un... Alors là, c'est un théâtre aussi, qui a un théâtre à Avignon.
C'est aussi un théâtre littéraire, c'est le même type de programmation.
C'est ça.
Je suis accrochée à ça.
Et donc, est-ce que c'est le genre de spectacle que vous auriez envie de...
Mais je ne l'ai pas vu, mais d'après ce que j'entends, oui, bien sûr, mais ça ne se passe pas comme ça à Avignon, comme on le sait.
Exactement.
Hein. Et en plus, il y a énormément de sol en scène, et de plus en plus, donc ça, c'est quelque chose...
Mais il n'est pas seul, il est avec sa marionnette.
Il est avec sa marionnette, et...
Avec mon papa.
Hein. Voilà, oui, avec son papa, oui.
Est-ce qu'il y a de la musique dans le spectacle?
Oui, il y a un... Je ne peux pas m'empêcher, de toute façon, de danser dans un... Tant qu'à faire, si c'est pour moi, oui, je... À choisir, j'adore danser, donc j'adore toutes les formes corporelles, on en parlait, le mime approximatif aussi, mais j'adore toutes les formes, en fait, muettes, quoi, sans parole. J'adore le texte, hein, évidemment, mais j'aime tout ce qui peut toucher un enfant de 2 ans qui ne parle pas français ou quoi, et jusqu'à 105 ans, voilà, j'essaie de toucher le maximum de gens, ce serait... C'est un peu un objectif.
Mais ce spectacle-là, il est conseillé à partir de quel âge ?
Non, ici, c'est plutôt 14
oui, c'est
ans,
ça.
Quoi, quand même. On parle quand même de cancer.
Voilà, quoi. C'est ça. C'est, ouais. Voilà.
Mais oui, je danse dans ce spectacle. Voilà. Si vous voulez tout savoir, je danse à un moment sur du Oum Kulthoum. C'est la diva égyptienne.
Exactement. Qu'on va écouter maintenant.
Et ben voilà, vous avez vu le lancement que je vous ai fait.
C'est extraordinaire.
Je suis rentré. Hop.
Mais est-ce que vous avez déjà fait de la radio ?
Non, je vais y penser.
Ben voilà. Alors, on l'écoute.
Thank you.
c'est de l'Égypte à un conte juif qui se passe où d'ailleurs ? Parce qu'il y en a beaucoup qui se passent dans la région.
Oui, mais ce conte juif se passe dans les fins fonds de l'Ukraine. Dans les fins fonds de l'Ukraine, dans un petit village juif, comme on les appelle, les shtetl. Et voilà, la ville des petites gens. Vous savez, ça vous arrive de vous retrouver devant des gens qui ont des gros bras, des gens qui font beaucoup de bruit, qui prennent beaucoup de place autour de vous, et vous vous sentez tout petit. Et là, il s'agit d'un village, de tout un village qui se sent tout petit par rapport à tout ce qui se passe ailleurs. C'est écrit par Shalom Aleichem, Sholem Aleichem. C'est son nom d'emprunt. Il s'appelait Shalom Rabinovitch. Et voilà, il a commencé sa vie en Ukraine. Il a fini sa vie en 1915 à New York. Un grand écrivain yiddish, un grand poète écrivain yiddish, hébraïque et anglais. Et donc, il nous a laissé une littérature
très abondante,
énorme,
oui.
Très abondante. Oui, des contes, des livres, des poèmes, des chants. Je ne sais pas quoi rajouter. Je dois dire qu'il a accompagné mon enfance à la colonie de la Lererke, à Bredene. Et voilà, aujourd'hui, pour la Maison de la Culture Juive, je suis heureux de pouvoir présenter un conte entièrement traduit. Alors, il ne faut pas croire que c'est pour les enfants. Non, c'est pour les adultes. Pour les adultes, pour les enfants, à partir de 8-10 ans, à partir du moment où ils comprennent, c'est très adapté aussi. Alors, deux lieux, deux synagogues. Vous savez, dans le temps, vous savez, le théâtre a commencé devant les églises. Eh bien, voilà, on va le perpétuer dans les synagogues. Pourquoi pas ? Voilà, c'est pas toujours de l'avis des rabbins.
Oui, alors pourquoi pas ? Parce que justement, il y a quand même des choses comme dans les églises et comme dans les mosquées, comme des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut pas faire.
Voilà.
Déjà
voilà.
Devant les livres sacrés, il y a des choses qu'on peut pas faire.
Voilà, mais bon. Vous savez, les livres sont loin, ou alors...
On les éloigne.
Ou on les éloigne, ou alors on va dans la salle à côté, toutes sortes de choses comme ça. Vous savez, le domaine du culte, c'est une chose, mais bon, dès qu'on est hors de la synagogue ou sur une place à côté, dans une chambre à côté, on n'est plus dans le culte.
Exactement. Voilà. Donc, je crois que c'est deux Français qui viennent, c'est ça ?
C'est deux Français, Adrien Segui et Eden Gerber, qui ont monté ce spectacle il y a à peu près un an et demi. Ils étaient en résidence Hommage, qui a donc financé le montage de ce conte, donc musical, parce qu'ils sont aussi ils jouent aussi de l'accordéon et de la clarinette, les instruments du klezmer. Et voilà, ce conte, ce spectacle a fait un tour vraiment successful, un grand tour avec beaucoup de succès, avec de nombreux spectateurs partout en France. Et il débarque chez nous. Donc pour deux lieux, deux synagogues et deux dates à deux moments différents.
Alors, comment est-ce qu'on peut définir les contes juifs par rapport aux contes... chaque culture a ses contes. Et les contes juifs, ils sont souvent très savoureux. C'est souvent des petites gens, c'est vrai.
Des petites gens, absolument.
Voilà.
Des petites gens, c'est toujours caricatural.
Oui.
Bon, beaucoup d'autodérision.
Exactement.
C'est toujours un peu attendrissant. Et puis, il y a souvent quelque chose sous la table qui est très, très, très puissant. Et qui fait réfléchir après.
Oui, il y a toujours, finalement, je ne sais pas si on peut dire une morale, mais une réflexion philosophique.
Alors, je dis plutôt une morale, parce que... plutôt une réflexion.
Oui.
Parce qu'une morale, c'est figé.
Oui.
Tandis que la réflexion nous laisse avec nous-mêmes,
oui.
Nous laisse face à des interrogations, et c'est à nous de répondre après.
Voilà, c'est ça. Mais c'était quand même, à l'époque, une façon, quelque part, d'éduquer les gens, raconter des contes, aux enfants aussi, et sans leur imposer une morale, il y avait quelque chose, ils comprenaient un peu comme les fables de La Fontaine, ils comprenaient que
voilà,
finalement,
c'est ce que j'allais dire,
ce qu'on peut pas, et ce qui, voilà.
C'est un petit peu comme des fables, c'est ce que j'allais dire, tout à fait.
Et donc voilà, pour rappeler que l'Ukraine, c'était un pays très cosmopolite à l'époque.
C'était pas que un pays de guerre. Non. Ce n'était pas que un pays d'antisémites. Oui. C'était un pays où il y avait de grandes communautés, encore aujourd'hui, où il y a de grosses communautés, d'ailleurs qui aujourd'hui sont très patriotes pour leur pays. Et voilà.
Et donc, il y a toute une culture
ukrainienne. Il y a toute une culture juive ukrainienne. Et d'ailleurs, dans notre JMAG, c'est notre journal qu'on diffuse sur le net, on a développé certaines histoires autour des synagogues ukrainiennes. C'est ça. Celle de Tarnopol, par exemple.
Et la musique klezmer, elle a vécu dans toute cette région, soit Pologne.
La musique klezmer, absolument. Elle a vécu donc en Ukraine, évidemment, en Moldavie, aussi en Bulgarie, aussi en Hongrie, en Russie, Pologne. Voilà, appelle ça la zone d'exclusion. Vous savez, c'était une zone où, à l'époque, les Juifs ne pouvaient pas aller plus loin en Russie parce qu'ils étaient exclus, sauf s'ils avaient un laissez-passer spécial. Sans laissez-passer spécial, les Juifs ne pouvaient pas aller à Moscou, par exemple, ou à Saint-Pétersbourg. Ils devaient rester dans cette zone d'exclusion qu'il y a autour de Saint-Pétersbourg-Moscou. Et c'est là, effectivement, que tous les shtetl se sont développés, donc des villages juifs, essentiellement juifs, où il y avait toute une culture très locale et très différente.
Où le yiddish s'est développé.
Où le yiddish s'est développé, tout à fait. Dire que dans le shtetl de mon père, on parlait plutôt hongrois. voilà, c'est encore une autre histoire.
Donc, c'est ce samedi soir et dimanche après-midi, c'est ça ?
Samedi soir à 19h45, donc après Shabbat, à la synagogue de Mahalé. Et samedi après-midi à 16h, à la synagogue d'Anderlecht. Alors, je ne vous cache pas qu'à la synagogue d'Anderlecht, il n'y a presque plus de place. Et il y a encore quelques places, à Mahalé. Donc, si vous ne savez pas où aller, moi, je vous dirais, allez à Mahalé.
Et donc, c'est très particulier, la synagogue d'Anderlecht. Donc, il y a 50 ans, du temps de nos parents, Bruxelles ne s'étalait pas plus loin que la maison communale d'Anderlecht. Enfin, c'est ce que... Et donc, il y avait une fille. C'est pour ça qu'il y a le triangle. Enfin, de toute façon, toutes les communautés, quand elles arrivaient à la gare, elles s'installaient autour de la gare. Et donc, autour de la gare du Midi, il y a toutes des petites gens.
C'était le shtetl.
Une communauté juive qui s'est installée, mais c'était des artisans. C'était tous des petits artisans.
Je dois dire, même plus, c'était vraiment le quartier de l'immigration juive. Et c'est un quartier qui a toujours vécu de l'immigration. Et les immigrations ont juste changé de couleur.
Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc maintenant, ça a changé. Mais il y a toujours cette synagogue qui est là, qui n'est pas très utilisée, mais qui a été classée, qui est un très beau...
Très franchement, la synagogue fonctionne tous les samedis. Avec certains irréductibles gaulois. Voilà. D'ailleurs, Goscinny était juif. Il a décrit un shtetl. Voilà, pas la Gaule. Mais c'est
voilà,
pas
en tout cas, c'est une occasion aussi de venir visiter les synagogues.
Absolument. Et donc, surtout que cette synagogue, maintenant, est classée. Oui. Et donc, c'est un véritable monument d'art déco. Et c'est vraiment exceptionnel de voir ce bâtiment énorme par rapport au type de maison qu'il y a dans le quartier. C'est des petites unifamiliales bruxelloises. Et ce bâtiment, gros cube, moi, je vois tout de suite que c'est une synagogue par les arrondis qu'il y a aux fenêtres. Il n'y a pas de signe vraiment distinctif à l'extérieur, mais l'architecture évoque vraiment une synagogue. Et l'intérieur, tout à fait.
Et donc, pour réserver, on va sur...
Alors, pour réserver, le plus simple, vous allez sur notre site. Donc, tout simplement, maisondelacultureJuive.be, tout en minuscule, tout en attaché, comme ça s'écrit, comme ça se prononce. Il n'y a pas de blague. Et là, dans le déroulé de l'accueil ou des événements, vous trouvez... Donc, attention, il y a deux événements. Celui à Mahalé... Et celui à Anderlecht, ces deux articles différents.
Très bien. Et on va écouter de la musique qui n'est pas du klezmer, qui est plus moderne que ça.
Mais j'ai choisi du, paradoxalement, parce que j'aime pas le rap, j'ai choisi du rap. Voilà, j'ai choisi du rap de l'immigration aussi, du rap donc de Teddy Meduse, donc un immigré éthiopien en Israël. Et vraiment au niveau du texte, c'est pas vrai. בקיסריה, צימר בטלפון, מסיים צבא, אני בתאילנד, וואו, שיגעון, יש לי מינוסים בבנק, אני רץ למיליון.
הדמיון. אני אף כמו אייט, אני טייט עם הפלואו, מן את מי זה מעניין, אתה היי, אתה לא, אתה ביץ'. מה רצית שאני אגיד? מה רצית שאני ארגיש? אמפתיה? יאללה די כבר, שתחזור הביתה. שם את המטרות על המפה של המיינקראפט. אם יש לי משאלה, אני לא מזבז את הלוייב רק. כרטיס כיוון אחד לכל הפרמה לג'מייקה. רגע, למה שתברח? יש ארץ נהדרת, הכל בסדר כאן, אח? כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד, תמיד רוצים יותר. כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד. אנשים תמיד רוצים עוד. שבת הרגע, תגיד תודה שאתה חי. חצי מהברנג'ה פה רוכבת על ההיי. ברומא תתנהג כמו רומאי או כמו זין. אני לא מחפש סיבות כדי לכתוב עוד דרייבס. לא מדבר איתם, אבל הם מדברים עליי. בנות פתאום עפות שהן שומעות אותי בלייב. חברים מפעם שחשבו שזה זמני, אומרים שוואלה זה מגניב לראות את בגלגלצ. הבידוד הזה דפק לי את הראש. המינון הזה נראה לי לא נכון. אומרים לי תישאר בבית, אבל אני לא יכול, כי זה לא מהמטר מהחדר שלי ועד המיקרופון.
Ben voilà, pour une des premières fois, on aura écouté une musique jusqu'au bout. Parce que
c'était, bravo. C'était
court. Voilà. Et pour une fois, Luc a fait court aussi. Bravo.
Voilà.
Et on passe à Fabienne Govart et à sa clairancière. J'hésite toujours entre clairancière, clairancière. Alors, j'ai été voir sur le site d'où ça venait. Donc, on peut juste dire deux mots de l'histoire. Pourquoi ça s'appelle comme ça, depuis quand ça existe
que, oui, parce que mon compagnon s'appelait André Clarence. C'était son nom de scène. Il était pensionnaire au Théâtre National de Belgique toute sa carrière. Et quand il a terminé au National, il avait encore envie de jouer. Mais il voulait être libre. Et donc, j'ai créé ce lieu dans lequel, finalement, il n'a jamais joué. Parce qu'il était là tout le temps, mais il ne voulait plus de contraintes. Il ne voulait plus de contraintes. Donc, ça s'appelle la clairancière. Oui, les gens regardent souvent au dictionnaire, ça n'existe pas.
Non,
alors, ils
ça.
Me disent, c'est clairière. Non, non, c'est pas clairière.
Oui, c'est ça.
C'est clairancière. Parce qu'en fait, c'est le premier. On lui a demandé d'avoir un surnom. Et il cherchait et il jouait justement dans Richard III, le duc de Clarence. Et il a dit, ben, Clarence.
En tout cas, c'est un très beau nom. Et c'est un très beau lieu qui se situe donc à la place Flagey.
Devant le bâtiment Flagey.
Voilà, c'est ça.
Juste devant l'entrée des artistes de Flagey.
Voilà, c'est une... Alors, de l'extérieur, c'est une maison.
Maison néoclassique, oui.
Voilà, on rentre, ben, on tombe tout de suite sur Fabienne et son chat. Il faut fermer la porte parce que sinon,
les
le
deux
chat sort.
Oui, les chats, oui.
Donc, il faut faire très attention.
Mazarin et Célimène.
Voilà. Et puis, on... c'est très important parce que dès qu'on rentre, on se fait engueuler. Attention, la porte. Attention, les chats vont s'arrêter.
Non, les chats.
On est chez eux. Hein, on est
il reste pendant le spectacle.
Ah oui, Mazarin, il est terrible. Il fait un foin épouvantable devant la porte si on l'empêche. Même s'il y a un piano, il se met sur le piano. Même ce week-end, il y avait du cabaret avec la pole dance. Ça ne lui fait pas peur. Il a peur de rien, Mazarin.
Pole dance.
Oui.
D'accord.
Bon,
on va parler des spectacles qu'il y a chez la gentille Fabienne qui a l'air de rien comme ça.
Et donc, c'est pas parce qu'on aime le texte qu'on peut pas s'amuser.
Ah, ça, je crois. Et donc, on descend et puis on arrive dans un, j'appellerais un petit boudoir.
Oui.
Un petit bar.
On peut dire ça, oui.
Qu'est-ce qu'on appelle, c'est quel style rococo, un peu comme ça, un peu en tout cas tout est en velours, un petit peu, voilà,
oui,
c'est
du rotin,
il y a un
des
petit
petits
bar,
coussins
voilà.
Rouges et un petit feu avec des fausses bûches, ça donne une atmosphère agréable et chaude.
Voilà, et puis on rentre dans la salle.
Oui.
Excusez-moi, et là donc tout serré, il y a 50 places.
Serré, collé.
Mais c'est 50. Très intime, hein.
Oui, c'est très intime.
Très, très intime.
Les comédiens jouent presque sur les genoux des spectateurs. Et ça leur arrive d'ailleurs parfois pour certains spectacles. Mais donc, c'est ça le charme aussi.
Exactement, c'est un charme fou, franchement. Oui. Et donc vous accueillez, on va dire, un spectacle par semaine
À peu près, c'est ça. Oui.
Voilà. Et donc, les prochains
spectacles...
Parce
que c'est difficile que ça dure plus d'une semaine. On n'a pas moyens de faire de la publicité, donc c'est compliqué.
Oui. Mm-hmm. Et donc, les prochains spectacles, à quoi on peut s'attendre?
Alors, cette semaine-ci, c'est, les rhododendrons ne se posent pas la question. Ce mois-ci, c'est un thème qui est consacré à l'amour, tout le mois de février, toujours. Il y a des spectacles de toutes les sortes sur l'amour. Ici, c'est un spectacle de Charlotte Deschamps et Éric de Star qui l'ont écrit ensemble. Et c'est Éric qui le met en scène. Et ça, c'est sur les non-dits. C'est sur les non-dits dans le couple, les questions qu'on ne se pose pas, les choses qu'on ne dit pas. Et les rhododendrons n'ont pas ce problème-là.
Alors, nous si vous signez Eric de Starco. De toute façon, on vient. Parce que, voilà.
C'est très bien.
Je suppose que vous êtes d'accord.
Oh, oui, oui, oui. Merci. Ah. Oui, oui, Eric, je suis fan. Oh.
Complètement, plein d'amour. Oh.
Ouais. Voilà, c'est ça.
Mais donc, c'est du beau monde. Hein. Et la semaine passée, vous avez vu, c'était Bernard Damien et Anne-Marie Capellier. Ah,
magnifique.
C'est, oui, ils ont pris leur quartier à la Clarencière maintenant.
Bruxelles,
oui, à la Clarencière, comme Jean-Claude Drouot l'avait fait après le National, comme Francis Lalanne l'a fait, comme Boringer l'a fait, j'ai eu la chance.
Ah, tous les
comme,
trois,
comme
voilà.
Charlie Hebdo l'a
venu,
fait.
Il faut
après
y
les
aller,
attentats.
Hein. Il faut, ça vaut vraiment la peine. Il faut
eu,
aller chez. Chez
comme Brigitte Fosset, oui, j'ai eu quelques belles. Quelques beaux moments. Et j'ai la chance que Bernard Damien et Anne-Marie Capellier, que je connais depuis longtemps, ça fait 40 ans que je fais ce métier quand même, se sont épris de l'endroit et aiment travailler avec moi et qu'il y a une relation d'amitié et que maintenant, d'office, ils sont là pour 3 spectacles par saison. Ça, c'est très chouette, quoi.
Alors, donc, le prochain spectacle. Donc, il y a les rhododendrons.
Oui.
C'est 3 jours-ci, c'est ça, jeudi, vendredi, samedi?
Oui, c'est ça, c'est ça, oui.
Ensuite
ben, la semaine d'après, on ferme parce que ce sont les vacances de printemps.
Pour tout le
je
monde.
Suis comme tout le monde, j'ai plus d'enfants, mais j'ai des petits-enfants. Donc, les vacances scolaires, je m'occupe des 3 petits bouts un peu. Et puis, je continue le reste du travail. Parce que comme je suis seule, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de choses à faire. Après ça, on recommence avec un récital de poésie de José Pérez, qui est aussi un habitué, qui est là depuis une dizaine d'années, et tous ces textes sont montés chez nous. Là, ça s'appellera Tout en douceur. Et puis, notre ami Bernard Damien revient avec un spectacle sur Candide. Et donc, oui, ça, c'est un grand classique. Il l'a beaucoup joué à l'Excel Théâtre. Donc, c'est un grand classique. Là, on a pas mal de scolaires aussi avec ce spectacle-là. Et puis, ben, toute la saison continue. Il y a plein de choses qui sont programmées. On a un spectacle sur Aragon, Victor Hugo après. On a Guernica, Mon amour. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses tout le reste de la saison.
Mais il y a un spectacle qui vous tenait à cœur, qui est un spectacle
oui.
au profit de...
oui.
d'une personne.
Alors, pour la Saint-Valentin, on a créé un récital de poésie. Ça, c'est donc la production de La Clarencière avec Mathieu Moreau, qui a une voix magnifique. Il fait beaucoup de doublage. Et il se trouve que mes enfants ont une amie qui est atteinte, un peu comme ton papa, d'un cancer en phase 4. Mais elle est toute jeune, elle a 3 petits-enfants, du même âge que mes petits-enfants, 3, 8 et 10. Et malheureusement, quand on lui a annoncé le diagnostic de ce cancer, il venait de signer un compromis de vente. Et donc, le fait du diagnostic de cancer a fait qu'ils n'ont pas pu avoir d'assurance vie. Ils sont rentrés dans cette maison quand même parce qu'il fallait assurer. Et puis, on pensait que c'était un cancer qui se soignerait facilement. Il fallait assurer la continuité de la petite tribu. Et malheureusement, les choses se sont enchaînées. Ça a été très vite. Et en 2 ans de temps, ben, elle en est au stade 4. Ça a atteint les os et le cerveau et elle ne va pas bien du tout. Et il se trouve que cette maison a des vis de construction, la façade s'écroule. C'est un peu ce qui s'est passé dans L'écume des jours de Vian. Notre Néferti, là, c'est un peu la Chloé de L'écume des jours. C'est d'ailleurs ça qui m'a décidé à faire cette soirée.
Et donc, quel est le spectacle voilà, que...
Le spectacle, c'est Balade galante qu'on va présenter le 23 mars. Donc, c'est une soirée pour eux, pour rebâtir cette maison parce que la façade s'écroule, les sols explosent, les tuyauteries explosent, ils sont là avec 3 petits-enfants. Elle ne sait plus travailler, elle a consacré toute sa vie aux jeunes, elle est éducatrice spécialisée, et là, ils sont dans le... Donc, cette soirée, elle est pour eux. Les places sont un peu plus chères, elles sont à 25 et à 50, mais l'entièreté de la recette est pour eux. On appelle aussi à l'aide de bénévoles, s'il y a des maçons, s'il y a des peintres, s'il y a des masseurs, s'il y a des gens qui peuvent venir donner un coup de main pour le babysitting, ils sont bienvenus, qui s'adressent à la Clarencière.
Et donc, c'est quelle date ce soir?
Le 23 mars, et c'est une belle famille, cette jeune femme s'appelle Néfer parce que son papa est égyptologue et qu'il avait un amour fou pour Néfertiti et donc elle s'appelle Néfer.
Voilà, et en plus le spectacle est...
Le spectacle est très beau. Mathieu Moreau fait vraiment un très très beau récital de poésie. Oui, oui, très très beau. Très animé.
Voilà, alors on va sur votre site et on voit tout ce qui se passe.
Oui, tout y est.
Laclarencière.be.
Et puis on peut me téléphoner.
Simplement.
Laclarencière.be. Et on peut me téléphoner aussi ou m'envoyer un mail si on a quelque chose à proposer. Toutes les propositions sont bienvenues pour aider cette famille qui est vraiment tellement voilà. magnifique.
En tout cas, Fabienne Govart, vous faites partie de ces gens que nous, on adore, qui font vivre le spectacle à Bruxelles, qui, c'est votre âme, c'est votre lieu, c'est chez vous. On vient chez vous, à la maison.
Tout à fait.
Enfin, je ne sais pas si vous habitez là, mais...
Oui, j'habite derrière le jardin.
Voilà. Ben, en tout cas,
c'est ce que le public aime, c'est qu'il se sent accueilli
Exactement.
À la maison.
Oui, et j'ai vu que vous aviez vraiment des habitués. Une fois qu'on y va, on y retourne.
Emmanuel y a joué il y a des années. Il a présenté son Novecento pianiste.
Ah, voilà.
C'était très beau.
Alors, qu'est-ce qu'on va écouter comme musique?
Eh bien, on écoute Jean-Baptiste Lully, la marche baroque. Merci.
Lully, ça me fait penser à Molière. Hein.
C'est... Ben, oui. Hein.
Voilà, c'était le but, je ne sais pas. Mais
oui, et même les chats, c'est de là qu'ils viennent, Célimène et Mazarin. C'est aussi.
Tout se tient. Et enfin, Véronica Mabardi.
En effet.
Très content de te recevoir. Donc, on a eu l'occasion de. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de faire un atelier d'écriture théâtrale, ce qui est quand même rare. Dans un endroit magnifique qui est sous-utilisé, il me semble, à la Bellone.
Oui.
C'est magnifique hein, comme endroit, oui.
On s'est beaucoup amusé. Ça.
Et d'ailleurs, je ne sais pas ce qui se passe à la Bellone.
Il se passe plein de choses. Hein.
Beaucoup de choses.
C'est un centre de recherche,
oui.
Des résidences, il y a des gens qui se rencontrent là pour réfléchir, théâtre et écologie, théâtre et cité.
Mais pour le grand public.
Ils peuvent venir.
On peut les citer.
Oui,
Il y a eu le Centre des écritures dramatiques Wallonie-Bruxelles était là-bas. Il y a Contredanse, il y a le magazine alternatif théâtral. Il y a une flopée, en fait, de
Oui, mais des spectacles ou des choses utilisées là-bas.
Il y a une série d'événements type conférences qui existent. Il y a des workshops qui sont ouverts au public. Il y a des étapes de travail qui sont ouvertes.
Je vais aller voir sur le site tout ce qu'il y a. C'est un endroit magique. Ouais. Il faut y aller au moins une fois pour voir cette cour très étrange, en fait. Hein.
Oui, il faut vivre les rencontres là-bas, dans cette cour. Mmh. C'est vraiment très, très intéressant.
Voilà, et puis là, on va donc suivre des rencontres au Théâtre des Martyrs.
En effet.
C'est ça ?
Oui.
Dans lesquelles, donc, rétrospective de toute l'œuvre. Est-ce que c'est tout, d'ailleurs ?
Non, pas du tout.
Pardon.
Non. C'est en fait une super belle proposition de Philippe Sireuil qui organise régulièrement des focus.
Qui est le directeur,
Théâtre des Martyrs. Et donc, il travaille avec Nathalie Rim du magasin des écritures théâtrales.
Oui.
Oui, le maître, c'est bien ça. Et à deux, ils font régulièrement un focus sur des auteurs et autrices. Donc, ça m'a un peu impressionnée parce que vraiment, une des autrices préférées qui m'a éduquée, on va dire.
Ah oui.
Je la lis depuis que j'ai 20 ans. Michel Fabien a eu son focus il y a quelques années. Et ça m'a fait un drôle d'effet, j'avoue.
Ça y est, on passe dans une autre catégorie.
Mais c'est bizarre parce que je ne considère pas du tout mon travail comme une œuvre.
Une
justement,
œuvre.
Je n'aime pas du tout ce mot.
Non.
Je préfère un bricolage, j'avoue.
D'accord.
Vraiment, parce que j'aime beaucoup.
Un patchwork ou un truc de photo là, collé.
Parce qu'un bricolage, c'est comme
scratchbooking là.
Oui, ben c'est même l'esprit de ça. C'est les enfants, en fait. quand ils ont parfois un grand désir de faire un bricolage et faire quelque chose de beau pour quelqu'un. Alors ils viennent apporter leur bricolage et ça me touche beaucoup dans l'enfance, ça. Et quand ça se passe bien dans le travail au théâtre, pour moi, c'est de cet ordre, en fait. On bricole ensemble un truc et puis on va le montrer à des gens. Et donc l'idée de l'œuvre contredit un peu cette chose dynamique qui peut toujours changer parce que le public change. Donc on peut retravailler les textes, on peut... L'œuvre fige un peu et met un peu sur un piédestal.
En tout cas, une fois que c'est édité, c'est un peu figé, non ?
Non, parce qu'en fait, ça continue. Par exemple, moi, Linden qui a été joué là, il a été réédité chez Midlandsman qui a pris le risque avec moi au début du projet. Il a été réédité à Espace Nord. Donc rien n'est jamais.
Et donc différent.
Différent, oui, c'est autre chose. Chaque livre, chaque étape est une autre chose. Et j'aime bien ça, en fait. Ça me terrifierait que je ne ferais jamais du marbre, par exemple. Je ne sculpterais jamais du marbre. Que ça reste, alors que tout bouge, ça me poserait un problème.
Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir donc écouter ? Parce que c'est ça, ce sont des lectures.
Mais connaissant les metteuses en lecture, ça va bouger quand même. Ça va déménager. Il y a deux textes par soir. Alors, pour que ça ne fasse pas des soirées immenses et qu'on puisse avoir un texte, puis prendre une pause et puis un autre texte, et puis deux parties d'une heure comme ça, on a réduit les textes. Et c'est un petit peu un voyage dans plusieurs textes. Il y en a un qui a un texte qui ne va jamais être fini, qui est toujours en réécriture. Donc là, on a fait un état du texte. Et Virginie Thirion travaille avec quatre actrices sur ce texte qui est aléatoire, en fait. On ne sait jamais dans quel ordre on va le dire. Très curieuse de voir ce que ça va donner. Cathy Minjung met en scène...
Qui est la directrice du rideau.
Et qui va mettre en lecture un texte que j'ai terminé pour l'occasion. C'est-à-dire que c'est un texte qui n'a pas été monté quand j'ai voulu qu'il soit monté en 2005. Et là, je l'ai adapté pour la lecture, en me disant, là, ce texte peut rencontrer un public, donc je vais prendre l'idée de la contrainte que j'ai là, un plateau... des acteurs, mais pas de mise en place, pas de mise en scène. Et ça permet énormément de choses dans l'écriture, parce qu'on peut raconter, il peut se passer plein de choses. Donc voilà, et le lendemain, il y en a deux autres, qui sont plutôt des anciens textes.
Donc c'est maintenant, ça se passe, c'est ce mercredi, jeudi, vendredi, c'est ça.
Et vendredi, on termine par la lecture d'extraits mis en scène par Jeanne Landois de mon dernier roman. Et donc là, c'est une tentative de mettre ce roman-là sur la scène, des extraits de ce roman, et Jeanne est en train de faire un
travail. Donc il n'est pas destiné à être joué, celui-là. Et les autres étaient destinés à être joués ?
Les autres sont vraiment des choses que j'ai écrites pour des équipes.
D'accord.
C'est même destiné à être joué
par des équipes particulières. Ah oui, d'accord. Et donc, je pense que c'est gratuit, c'est ça ?
C'est gratuit.
Il faut s'inscrire, mais on tient à
assister. Et même venir le soir même, et puis se dire, bon, j'en ai assez après une, je suis assez nourrie,
Assez nourri ou pas, parce qu'ils ont refait le restaurant, parce qu'il est...
C'est ça. Et puis on peut manger un bout et puis en voir une autre, ou pas, ou aller voir un spectacle ailleurs. Parce que
et alors, est-ce qu'on pourra parler avec Véronica ce soir,
Non seulement avec Véronica, mais quoique moi, j'aurais déjà beaucoup pris la parole sur le plateau, vu que ce seront mes mots, mais par contre, on pourra parler aussi avec les actrices et les metteuses en lecture. Et
ça intéressant.
Très sympa, je crois. C'est vraiment génial, hein, le théâtre, parce qu'on fait quelque chose tout seul, et puis tout à coup... C'est d'autres qui prennent le relais. C'est magique, quoi. C'est vraiment toujours la fête d'entendre des acteurs et des équipes.
Oui, parce qu'alors, je suis venue voir enfin, après 10 ans, loin de Linden, dans cette pièce, avait tourné, je la voyais partout, à chaque fois, j'arrivais trop tard. Alors, qu'est-ce que c'était bien joué ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu, loin de Linden ? Ah, il n'y a pas que moi, alors.
Valérie Beauchaud, Véronique...
Des comédiennes incroyables.
Incroyable. Oui, vraiment.
C'est vraiment magique, c'est pas mal.
J'avais une émotion... Valérie joue un personnage moins émouvant. Enfin, il est un peu plus froid.
Elle n'est pas immédiatement sympathique.
Voilà. Mais comment s'appelle l'autre comédienne ?
Véronique Dubon.
C'est ça, que j'avais vu dans... À cheval sur le dos des oiseaux. Voilà, mon cœur serré du début à la fin. Oui. Et elle est émouvante, elle a une émotion en elle.
Mais toutes les deux sont traversées par ces deux femmes.
Oui. Donc c'est aussi autobiographique. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure, mais en tout cas, il y a une base.
C'est intéressant parce que beaucoup de gens me disent que c'est autobiographique, mais quand l'histoire se passe, je n'étais pas née.
D'accord.
Donc, j'ai interviewé mes grands-mères.
Oui.
Et comme ces grands-mères ne se parlaient pas, je les ai forcées à se parler. En fait, l'idée, c'est de les mettre dans la même pièce et qu'elles se parlent et qu'on en finisse avec ce silence. Parce que, petite fille, c'était compliqué. Je devais choisir mon camp et je ne voulais pas choisir mon camp. Donc je les ai interviewées d'abord une, puis l'autre. Et puis, je les ai fait se parler puisque j'avais les bouts de texte. Donc, j'ai utilisé la fiction pour les mettre ensemble et puis pour donner un dénouement... où on comprend bien que ce n'était pas une bonne idée.
Donc, dans ce même village de Linden, où je ne sais pas combien d'habitants il y a, il y avait ces deux familles qui n'ont rien à voir.
Alors, c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que ma grand-mère maternelle est née là, grandit là, et est morte à Louvain-la-Neuve, mais a vécu toute sa vie là. Tandis que ma grand-mère paternelle, elle vivait quand même à Avenue Molière, dans une maison de maître, et elle s'est réfugiée avec sa mère à Linden. Après la ruine absolue, le crash de...
Parce que peut-être le loyer était moins cher à Linden qu'à l'avenue Molière.
Ils avaient tout perdu, c'est leur ça. Maison. Voilà, ils étaient dans la grande, grande bourgeoisie et tout à coup, il n'y avait plus même de quoi se payer un appartement derrière la gare du Nord. Et
c'est
donc,
ça.
Il y a cette chute-là. Et puis de l'autre côté, il y a une famille qui vit à Linden et qui bosse et qui a ce rêve d'avoir une maison. Et puis à un moment, les deux familles se rencontrent et il y a un silence entre les deux.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, on se demande comment les enfants de ces deux femmes se sont mariés, finalement. Donc, se sont aimés.
Beaucoup d'amour.
C'est ça, oui, c'est ça.
Parce que ce n'est pas que des enfants de ces deux femmes. C'est aussi mon père.
Oui.
Mon grand-père est égyptien. Et, je veux dire, c'est aussi... on est dans une famille. J'ai un frère et une sœur adoptés coréens.
Donc, hyper on est dans une famille très,
très,
oui, c'est
métissée,
ça.
Une famille très... qui se construit, en fait, qui... Et ça marche assez bien.
Et ça marche, voilà, ça marche, c'est ça qui est un exemple magnifique. Enfin,
Je trouve que ça marche bien quand on met des gens différents ensemble.
En absolument, fait. Oui. Enfin, quoique les grands-mères, ça n'a pas fonctionné.
Ben, ça n'a pas fonctionné parce que ça n'a pas fonctionné. Je ne vais pas vous raconter
plus. Non, mais les grands-mères, ça n'a pas
fonctionné.
Ça n'a...
parce qu'il y avait la Belgique. Ah, oui. Et que la Belgique, c'est aussi deux langues. Et
c'est
aussi
ça, en plus.
Deux visions du monde. Et c'est aussi... moi, je pense que les gens, quand même, ils sont... Enfin, je pense... C'est vraiment une conviction profonde qu'on est construit par là où on grandit. Et on a des tâches aveugles.
Ça veut dire qu'on est déterminé ?
On n'est pas déterminé, mais on n'est pas indépendant du paysage. Et on n'est pas indépendant des gens qui sont autour de nous. Et donc, il y a un moment où, si on apprend depuis toute petite que « Oh, le flamand, c'est moche », quand on vous présente votre futur...
La belle famille,
de
oui.
Vos
enfants.
C'est terrible. Et inversement aussi, il y a quelque chose... qui est où elles incarnent quelque chose qui n'est, ça c'est mon pari, qui n'est pas de l'ordre de qui elles sont, mais qui sont de l'ordre de la fabrication, ce qu'on a fait d'elles en fait. Et quand elles dansent, dès qu'on danse, dès qu'elles se taisent enfin et qu'il n'y a pas des mots et des discours, elles se sourient et ça se passe.
Alors, donc en tout cas, on va pas parler de Doyen, enfin quoi que si, ça se rejoue donc à Namur, c'est ça ?
À Namur, à Martinroux.
Voilà, je vous le conseille tous les deux là, et même vous, si vous ne l'avez pas vu, c'est quand même une perle.
Oui, d'autant que ce sont deux comédiennes que j'apprécie beaucoup.
Exceptionnelles.
Elles portent le spectacle.
Alors, on va vite redire les dates de tout le monde, et puis on va finir en musique, avec la musique choisie par Véronica. Donc, Emmanuel, il reste encore des places pour le 24. Qu'est-ce qu'il reste comme place ?
Donc, il y a des dates supplémentaires.
Des places
24, 25, 26. Oui, encore des places le 24 et le 25. Et
donc,
il y a
samedi
des...
et dimanche, alors
voilà,
c'est
et
ça ?
Voilà, et alors, le samedi, il y a deux représentations, 16h et le soir, le dimanche, 16h et le lundi, 19h30.
Et le mardi, tu dors ?
Et le mardi, je dors pendant un siècle.
C'est ça. Outhman, on commence le 12 mars.
C'est ça.
Jusqu'au 23. Donc, il faut se dépêcher parce que ça ne fait pas énormément de représentations.
Il y a une date le 9 avril au Centre culturel Ducle aussi.
Ah oui, voilà. Et voilà. Puis, et plus, on espère.
Et plus l'année prochaine, ouais, en début de saison, l'année prochaine.
Voilà, que ça continue. Chez Fabienne, il y en a un peu tout le temps, donc il fallait sur
alors, c'est la 25e saison, donc toute la saison, il y a plein de très beaux spectacles,
voilà.
De textes. Et je rappelle la seule soirée, l'unique, au profit de Nefer, le 23 mars, et c'est une soirée d'amour pour cette petite famille-là.
Magnifique. Et Véronique, merci. Alors Véronica, on va écouter donc une découverte pour nous, Work, c'est ça ?
Ah oui, Work. Charlotte Day Wilson.
Génial. Au revoir tout le monde et bonne continuation.
Au revoir.
Très heureux
beaucoup.
De vous recevoir aujourd'hui.
Merci.